Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas. Nous sommes en direct, et oui, en direct sur le 107 FM, ça fait du bien. Nous sommes le lundi 22 février, 8h30, avec moi Corto. Salut Corto.
Salut mon Ben.
Comme une impression déjà vue, t'as pas l'impression ?
Non, pas du tout.
Au programme de cette matinale, dans un instant, grâce à Véro et Martin, nous irons à la manif de Mende en soutien aux 17 personnes menacées d'une obligation de quitter le territoire français. C'était il y a une dizaine de jours, il y avait 400 à 500 personnes environ. Ça fait du bien de voir de la solidarité par les temps qui courent. Et puis en deuxième partie d'émission, j'ai rencontré Dimitri, il est hydrologue en ville, à Bruxelles précisément. Ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, mais si tu veux bien mon Corto, on commence évidemment par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Pressé par la société, l'exécutif a annoncé l'instauration d'un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans pour les actes sexuels avec un majeur et à 18 ans pour l'inceste. C'est une évolution largement saluée, malgré les inquiétudes sur la capacité de la justice à lutter seule. Les députés en ont débattu, en tout cas jeudi dernier. L'affaire Duhamel, vous le savez, hein, cet éditorialiste politique qui a été accusé d'inceste, et les témoignages sur l'inceste ont eu raison des réticences du gouvernement. Il va durcir la législation sur les violences sexuelles sur mineurs, notamment au sein de la famille. Une victoire pour les associations féministes et de défense des droits de l'enfant qui ont longtemps bataillé pour changer le code pénal, mais qui interroge la focalisation sur la justice pour lutter efficacement contre les fléaux. Et oui, donner des moyens à la justice, donner des moyens à l'école, donner des moyens à tout le monde en fait. L'annonce en a été faite en tout cas par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pourtant peu allant sur le sujet. Je le cite, « La société nous conduit à changer le droit », a-t-il concédé. Un seuil d'âge de non-consentement sera fixé à 15 ans. Tout acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Jusque-là, il fallait prouver que l'auteur avait fait usage de violence, de menaces, de contraintes ou de surprises. Mais deux restrictions sont prévues. Il faudra prouver que le mis en cause connaissait l'âge légal de la victime. Un écart d'âge qui n'a pas encore été précisé sera également fixé. Cependant, il faut faire très attention à ne pas criminaliser les amours adolescentes. Et oui, c'est ce qu'il a expliqué le ministre garde des Sceaux. Il paraît qu'il dit des trucs bien, des fois. Et prouver que le mis en cause connaissait l'âge de la victime, ouais, ça c'est pas gagné. Mais bon, voyons le verre à moitié plein, ça avance un peu, mais ça avance quand même. Allez, on se retrouve dans un instant, mais on écoute d'abord Al Jawala, le morceau c'est Border Buns. We'll be right back. cette fin est assez originale. En tout cas, c'était Al Jawala Barber Bones le 13 février dernier. Près de 400 personnes se sont donné rendez-vous à Mende pour soutenir des personnes menacées d'une obligation de quitter le territoire français. Derrière chacune de ces personnes, une histoire, une vie et un même désir, aspirer à une vie citoyenne libre. C'est donc grâce à Martin et Véro qu'un joli élan de solidarité s'est levé.
En fait, je ne représente rien parce que RESF, ce n'est pas une association. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de hiérarchie, c'est un réseau de personnes résistantes en fait. Voilà, donc chacun participe comme il veut, comme il peut, et voilà, il n'y a pas de représentant.
Comment ça fonctionne du coup en termes d'action?
Et bien, quand on est contacté par des gens qui ont des difficultés pour faire valoir leurs droits, pour avoir faire régulariser leur situation, ben, on essaye de les aider comme on peut au niveau administratif, et voilà.
Ça marche, tu parles de l'accompagnement du coup, c'est ça?
L'accompagnement surtout au niveau administratif, quoi, pour remplir leurs dossiers, pour les aider à contacter leurs avocats, pour faire les recours lorsque par exemple ils sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il faut faire des recours, une assignation à résidence, c'est 48 heures seulement pour faire le recours de délai. Donc il faut de suite monopoliser des gens qui les aident à remplir leurs papiers parce qu'ils ne savent pas toujours écrire le français, ils ne comprennent pas toujours ce qu'il y a écrit sur les papiers. Et puis contacter un avocat qui puisse faire le recours au tribunal administratif et tout ça. Donc c'est souvent des choses à faire dans un délai très court.
Est-ce que vous êtes à l'origine de la création de ce réseau?
Moi, je suis à l'origine de rien du tout. On était au départ une vingtaine. Il y a eu l'expulsion d'une famille. C'était en 2007. En été, ils ont profité des vacances scolaires pour expulser une famille. Et quand on l'a appris, c'était au mois de novembre, on l'a appris tard. Ça s'est fait incognito. On est tombé des nues en se disant mais c'est pas possible qu'on puisse accepter ça, et donc on a contacté le réseau Éducation sans frontières national pour leur demander comment faire pour s'organiser. Enfin bon, en fait il n'y avait pas grand chose à faire à part créer un groupe et voilà, et tous ceux qui sont... Beaucoup de personnes nous ont rejoints depuis. Alors après, chacun est actif comme il peut. Chacun fait ce qu'il peut, quand il peut, selon ses possibilités. Parce qu'il y a des retraités, mais il y a aussi des gens comme moi qui travaillons encore. Donc c'est uniquement des bénévoles.
Et donc, si vous êtes des bénévoles, est-ce que vous avez un accompagnement pour, par exemple, vous informer sur le droit de ces personnes-là?
On le fait tout seul, on le fait nous-mêmes.
D'accord.
Donc on prend des contacts avec la CIMAD, les amoureux au banc public aussi, toutes des associations qui sont déjà créées, elles, depuis longue date. Et voilà, c'est toujours des contacts partout avec des gens qui ont vécu telle situation, et on se renseigne par nos propres moyens.
Ça marche bien, vous arrivez à aboutir à des personnes qui reçoivent des papiers?
Oui, heureusement, on a quand même réussi à faire régulariser beaucoup de personnes depuis qu'on existe. Qui bien sûr, c'est vrai que si on les avait pas aidés, ils seraient partis, hein, ils auraient été expulsés. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué parce que le gouvernement français, ce qui se passe en Lozère, qu'on a expliqué, la situation qu'on a expliquée aujourd'hui, elle se passe partout en France, malheureusement. C'est très grave, quoi. C'est très grave. Donc, ça serait qu'en Lozère, ça serait moindre mal. Et malheureusement, la préfète de Lozère, elle suit les mêmes directives gouvernementales que les autres préfets de France. Et là, on arrive à une situation assez critique, quoi. Et ce qu'on se dit, c'est qu'ils veulent vraiment expulser tous les étrangers de France. Ça semble ça, leur objectif. Et ce qu'on se dit, c'est que de la façon dont ils traitent les étrangers en ce moment, c'est nous qui serons traités comme ça, hein, quand il n'y en aura plus. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Voilà.
J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous pensez que la manifestation, c'est efficace pour lutter contre les expulsions? Là, celle-ci, est-ce qu'elle peut avoir un impact, d'après vous?
Bah, disons, c'est quand même montré que, après, bien sûr, la préfecture fera ce qu'elle a envie de faire. Hein. Mais il faut savoir que, quand même, la préfète, les préfets ont un pouvoir discrétionnaire. Donc, ils peuvent décider, pour raisons humanitaires, ils peuvent décider de régulariser les gens, hein, bien sûr. Et puis c'est aussi de montrer que toute la population n'est pas d'accord avec ces lois scélérates, quoi. C'est, voilà, il faut qu'on montre que la population de Lozère n'est pas faite que de gens racistes et xénophobes. On n'est pas d'accord, voilà.
On est là pour soutenir nos frères qui sont barrés au papier. Moi je trouve que c'est bien de soutenir nos frères qui n'ont pas de papier, qui voulaient réussir en France, qui voulaient rester pour travailler, pour les gens aussi qui sont à l'école, pour accrocher, pour avoir leur diplôme. Quoi.
Ouais. Et toi?
C'est vraiment grave de voir, de traiter les gens, un être humain comme ça, parce que on est tous des êtres humains. Normalement, il ne doit pas nous mettre à la porte pour dire ouais, il faut que vous quittez le territoire. Et pourtant, c'est juste un papier. On est là pour travailler, bien sûr. Il y a des bombes, il y a des bonnes personnes partout, il y a des mauvaises personnes partout. Ça peut être que c'est d'autres personnes qui disent, qui font des bêtises, mais ça ne peut pas dire que c'est tout le monde est pareil. Mais, franchement, quand même, c'est triste de voir qu'ils menacent les gens de quitter leur territoire. C'est pas vraiment génial.
C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je suis content, par contre, aujourd'hui, de voir tous ces gens se manifester pour soutenir les gens qui sont menacés de quitter leur territoire et tout. C'est vraiment quelque chose de bien. De voir tous ces gens se manifester, ça me donne vraiment, ça me fait mal au cœur. Et je suis content aussi de voir tout ça.
Toi Ibrahima, comment tu te sens par rapport à tout ça?
Ouais, moi je suis un peu en colère, mais à la fois je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent soutenir les collègues qui sont en difficulté, tout ça là. L'histoire de papier, je sais, c'est vrai, c'est pas facile. Nous tous on est passé par là, mais je sais que c'est un truc qui est difficile pour les gens qui sont en train de chercher un papier en fait. Et aussi le travail, mais il y en a, ils cherchent le papier pour travailler. Après, ils vont payer les impôts comme les Français. Ils voulaient être un bon citoyen comme les autres. Mais s'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de papier, comment ils vont faire? Ils vont être dans la mer, ils vont être SDF plus tard. Ça c'est. Moi je trouve que c'est pas normal.
À l'occasion, papier chiffon, Christine, un soir, papier nulle part, vous consolez, laissez-vous les petits papiers, papier de l'île ou d'Arménie, qu'un soir il puisse en venir ici, pour réchauffer un peu. C'est du papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, les ennemis, c'est papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machin, machine, papier machine. Faut pas se leurrer. Celui qui touche pas vite tu bouches, et moi tu es fou, c'est pas brillant, pas du d'argent, c'est pas donné, pas dévoilé, où l'on en meurt pas bien à fleur, où l'on s'en fout.
Je suis venu pour soutenir ces gens qui sont menacés d'expulsion. J'ai eu écho par une collègue qui m'a fait passer par mail. Donc j'ai eu écho de ça. Et je trouve ça tout à fait anormal. Et ça me semble normal que je sois là en Orange pour soutenir cette cause-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la situation là en Lozère par rapport à ces personnes-là, si tu la connais ?
Je la connais pas très bien, okay. En fait. J'ai eu plus des informations sur les deux, Ali et j'ai oublié l'autre personne qui sont sur le secteur de Florac, puisque moi je suis sur le secteur de Florac. Je sais que ce sont des gens parfaitement intégrés, que rien ne justifie leur expulsion. Ils demandent juste un peu à être accueillis et à pouvoir bosser normalement. Voilà.
À quel point est-ce que tu es prêt à lutter pour aider ces personnes ?
Très bonne question, je ne sais pas. à venir manifester le premier jour des vacances, même s'il fait soleil et j'avais envie d'aller balader. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point. Non, je ne sais pas.
Je suis mineur à la base et nous sommes ici parce que ça ne va pas dans notre pays. Et le problème, c'est pas que la guerre, mais c'est la pauvreté. Une fois qu'on n'a pas d'argent et les familles n'arrivent pas à nous envoyer à l'école, nos parents, donc du coup, voilà la raison pour laquelle on a fait pour venir ici.
Tu es lycéen, tu...
Non, actuellement j'ai fait l'apprentissage. Je suis au CFA.
Est-ce que tu aurais un message à faire passer à la préfecture ou aux gens qui pourraient regarder et écouter ce reportage ?
Oui, tout ce qu'on peut dire, on essaie de devenir un citoyen modèle. Et vu que ça ne va pas, on a des problèmes différents entre nous et chacun son problème. Mais bon, on voulait être un citoyen modèle, on voulait s'intégrer très bien comme en tant qu'un bon citoyen, comme le disent les Français. Et on a besoin de l'État, on a besoin aussi d'aide de toutes les Françaises par rapport à cette situation. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci.
Ça parle de quoi ?
On parle de pourquoi vous êtes ici, à la manifestation.
Voilà, venez soutenir. Mais juste là pour soutenir et soutenir nos frères, parce qu'on trouve que c'est pas normal. D'expulser, ça touche et c'est choquant, c'est touchant. Et voilà, et là, j'ai mal au cœur en tant qu'être humain. Voilà, et je pense qu'en tant qu'être humain, on est libre de choisir là où on veut vivre. Voilà, donc c'est ce que moi je pense. Et voilà, donc je pense qu'il faut que l'État essaye de voir et voilà, d'aider ces gens-là parce que c'est très difficile. Voilà. Donc ça peut se faire d'autres, ils ont décidé de venir en France et pour venir vivre parce qu'ils ont des situations. Et voilà, peut-être qu'ils sont en danger dans les pays. Ils sont venus ici pour se confier à la France, puisque la France, c'est un terre d'accueil. Comme tout le monde le sait, c'est une terre d'accueil. Donc voilà. Et ce qui se passe, je trouve ça anormal.
Voilà pour ce bel élan de solidarité qui avait lieu le 13 février dernier. Ça fait du bien de voir la Lozère comme ça, en espérant que le dénouement à toutes ces histoires tragiques finira bien, enfin ça se terminera bien. Vous pouvez aussi réécouter la matinale de mercredi dernier où j'avais reçu Ali, qui est menacé aussi d'une OQTF. En tout cas, je remercie Martin et Véro qui ont pris les sons de cette manifestation que vous pouvez retrouver en entier dans le créneau libre la semaine prochaine. Dans un instant, je suis à la rencontre de Dimitri qui est hydrologue, mais juste avant on écoute Wanda Jackson, le morceau c'est Fujiyama Mama.
The backy.
Wanda Jackson, Fujiyama Mama, vous êtes bien sur Radio Bartas, vous êtes bien sur le 107. Parfois une rencontre et vous n'avez besoin que d'un téléphone. Ça s'est passé du côté de Bruxelles il y a une quinzaine de jours. Il s'appelle Dimitri, je le salue comme je salue Bruxelles. Dimitri, une rencontre, c'est parti.
Dimitri, salut.
Salut Ben, ça va?
Ça va plutôt pas mal. Écoute, hein, c'est l'occasion qui fait le larron, on se rencontre et t'es hydrologue.
C'est ça.
C'est quoi être hydrologue?
Alors, hydrologue, en gros, c'est étudier les sciences de l'eau. Que ce soit de l'eau de pluie, de l'eau souterraine, de l'eau de rivière, pas forcément de l'eau de mer, là on parle plus d'océanologue, mais plutôt des eaux claires, on dit. Alors, ici en Belgique, je fais des projets sur Bruxelles spécifiquement, et donc c'est la gestion des eaux de pluie, et plus spécifiquement la gestion des eaux de pluie en milieu urbain, dense, comme les grandes villes de Bruxelles. Donc c'est à la fois la pluie, mais c'est surtout en fait les égouts après, là où est acheminée la pluie à chaque fois qu'il tombe sur Bruxelles, et c'est assez fréquemment, comme tu peux t'en douter.
La pollution, on va en parler direct. Toi, l'eau qui tombe ici, elle doit être dans un état pitoyable.
Bah, quand elle tombe, pas du tout, mais à partir du moment où elle touche une surface urbaine, bah, elle commence à devenir polluée. Elle récolte.
Ah, c'est-à-dire que tu penses que l'eau qui tombe ici sur Bruxelles,
ouais,
elle n'est pas polluée quand elle débarque?
Ah, c'est pas que je pense, c'est que je sais.
Ah, elle c'est pas fou, polluée. C'est génial.
Les pollutions atmosphériques, on avait des pluies acides pendant certaines années, les années 80-70. Parce qu'il y avait des industries qui rejetaient trop d'éléments néfastes dans l'air, mais maintenant il y a des filtres qui sont efficaces, il n'y a plus de pollution, chimique de l'air, donc du coup l'eau est totalement propre et buvable, tant qu'elle n'a pas touché une surface.
Une fois qu'elle est tombée, oui, cette eau est récupérée ici à Bruxelles, il y a des bassins de rétention, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, ça se passe, elle est récupérée, filtrée et redistribuée dans les canaux.
Bah ouais, c'est un peu ça, bah, comme dans toutes les grandes villes développées, donc l'eau en ville arrive sur la route, après elle passe dans des avaloirs, les petites grilles qu'on voit sur toutes les routes là. Elle rentre dans les égouts, là elle se mélange à toutes nos eaux domestiques, donc les douches, les éviers, les toilettes. Donc elle devient avec une charge, elle a une charge polluante beaucoup plus importante. Et donc du coup, tout ça est amené à la station d'épuration, où il y a un gros traitement de ce eau-là, qui ensuite peut être rejeté dans la nature, donc dans les rivières. Elle n'est pas totalement propre quand elle est rejetée, mais elle est assez propre pour que la nature puisse la purifier elle-même.
J'ai rencontré des mecs qui bossaient dans une station d'épuration à Florac, la station d'épuration à Florac, et qui disaient que c'est il y a un gros délire avec les nouveaux trucs de PQ, pour eux c'était catastrophique.
Ah,
t'es
ouais,
d'accord
ouais,
avec ça?
Totalement, c'est n'importe quoi. En fait, plus on met des éléments solides dans les égouts, plus il y a de chances que ce soit bouché. Et un égout bouché, ça fait chier tout le monde. Vraiment, même les égoutiers, évidemment, mais même la ville, quoi, en général. Et alors, il y a ce problème-là, que oui, il y avait des pubs, on disait qu'on pouvait mettre le rouleau de PQ vide là, dans les chiottes, c'est n'importe quoi. Et il faut savoir aussi qu'il ne faut absolument pas mettre ces huiles de friture dans les égouts. Il y a des bouchons de graisse qui se forment dans les égouts, mais de taille de 3 mètres de haut, hein.
Sans deck.
À Londres, ils doivent en enlever tout le temps. Et c'est une galère monstrueuse parce qu'en fait, ça solidifie quand ça sera refroidi, évidemment. Et donc, du coup, ça fait des énormes bouchons. Et du coup, les gens sont obligés de les attaquer au marteau piqueur et tout. Parce que c'est monstrueux. Et puis, alors, voilà, ça te bouche genre des milliers de foyers. Donc, ça veut dire que ça va déborder rapidement.
Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'envie d'être hydrologue? Parce que c'est pas un métier commun. Ok, l'eau, c'est quelque chose qui devrait être accessible pour tout le monde. Enfin, analyser, comprendre, connaître. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être hydrologue?
Ben écoute, c'est un peu un concours de circonstances. Parce qu'à la base, moi, j'ai fait de la géologie. Donc, les roches vraiment brutes, on va dire. Et après, j'ai compris que j'avais pas envie d'en faire un métier, en tout cas. Donc, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je connais et sur quoi, qu'est-ce qui peut me correspondre? Et l'eau, ça a apparu un peu à ce moment-là, où je me suis dit, bah oui, l'eau, il y a ce lien avec le sol, les rivières, l'érosion, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à étudier ça. J'ai compris comment on utilisait l'eau dans les villes, comment en fait on cherchait à la gérer, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas vraiment, les pluies, les inondations, choses comme ça. Ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit que c'était une filière dans laquelle je pouvais servir mon environnement direct, la ville, plus largement les questions d'environnement,
Et donc du coup, c'est quelque chose avec quoi chaque humain interagit constamment. Donc ça m'a beaucoup intéressé d'essayer d'améliorer les choses à ce niveau-là.
Tu penses que ce serait possible que chaque humain ait accès à l'eau ?
C'est totalement possible. D'ailleurs, à partir du moment où un humain s'apporte quelque part, ça veut dire qu'il a accès à l'eau. Sinon, il serait mort. Donc, c'est totalement possible. Le seul problème, c'est comme tout, c'est des ressources. Alors, on a de la chance avec l'eau qu'il y a un cycle et que normalement, il y a une redistribution naturelle qui se fait. Mais malgré ça, on arrive à avoir des accaparements pour des raisons stratégiques de d'agriculture ou de juste de développement ou même juste de faire payer un prix plus fort à ses voisins ou à sa population. Donc.
Si aujourd'hui, imaginons, alors je parle pas de Bruxelles ni de nos pays qui sont dans l'hémisphère nord, mais est-ce que tu es déjà parti dans les pays du sud où l'eau est beaucoup plus basse, c'est beaucoup plus difficile à extraire, etc. On parle de moteurs. Je pense à Balavoine qui a fait le Paris-Dakar.
Ouais.
Tu vois, avec ses moteurs, ses pompes à eau qui ont fait beaucoup débat après sa mort, alors que tout part d'une bonne idée. Tu penses quoi de ces modes d'extraction d'eau?
Ok, bah je connais pas l'histoire de Balavoine à propos du Paris-Dakar et de l'eau. Malheureusement.
Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me demande pas.
Je vois. Mais j'ai visité ces pays-là, mais pas dans le cadre du travail. Il y a toute une autre relation avec l'eau quand elle est plus rare, en fait. Déjà, c'est quelque chose qu'on note très fort. C'est-à-dire qu'elle est plus précieuse, on l'utilise avec plus de parcimonie. Est-ce que les moyens d'extraction d'eau sont bien ou pas? C'est dur d'avoir un jugement là-dessus parce que ben voilà, on a besoin d'eau. Maintenant, il faut bien réfléchir à comment on l'utilise et surtout ce qu'on en fait quand on l'a utilisé. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de la gestion de l'eau dans des pays du sud ou moins développés, là où l'eau est rare en tout cas, parce que c'est vraiment des choses qu'on n'a pas du tout ancrées en nous et que pourtant on paye un prix associé à ça. Donc ça pourrait être un facteur de changement de développement, on va dire, d'une relation plus agréable avec l'eau.
La désalinisation de l'eau, ouais. T'en penses quoi? Tous ces systèmes et ces... Est-ce qu'on peut en faire quelque chose?
Ah bah on peut en faire quelque chose, il y a des pays qui en font déjà beaucoup quelque chose, il y a des pays qui dépendent vraiment de ça pour avoir accès à l'eau potable. C'est une technologie qui existe, qui a un coût énergétique et d'installation, qui a un impact sur l'environnement parce qu'on rejette du coup beaucoup plus de bromure, on appelle ça. Donc
du bromure.
C'est-à-dire on enlève le sel de l'eau de mer, mais après ce sel on le remet dans la mer, donc en fait on resalinise encore plus l'eau. Du coup, ça a un impact quoi sur l'environnement. Les écosystèmes sont perturbés par ça. Si on veut reprendre la même eau pour encore la traiter, bah du coup il y a moins d'eau potable dedans, donc c'est plus cher encore. Mais c'est une solution qui existe. Je sais pas. Encore une fois, c'est à voir. Pourquoi on utilise l'eau?
Il y a chez nous des hydrologues en Cévennes. D'ailleurs, il faut que tu viennes voir un peu comment ils travaillent. Ils sont absolument rigolos. Je pense à Yannick Manche, notamment, voir d'où vient une source, où va l'eau.
Ouais.
Ils mettent des colorants.
C'est
très drôle leur manière de travailler. Aujourd'hui, je me dis juste, être hydrologue, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Et en même temps, on parle de quelque chose qui s'arrête. Est-ce que l'eau va nous manquer à un moment?
Encore une fois, elle va manquer à certains et pas à d'autres. Mais c'est un enjeu de plus en plus important, puisqu'en fait, l'eau qu'on a l'habitude d'utiliser, en tout cas, notamment dans les nappes phréatiques en Europe la plupart du temps, elle se retrouve polluée par des engrais, des pesticides, des choses comme ça. Donc en fait, elle est moins propre, donc elle est plus vraiment utilisable, entre guillemets. Donc quelque part, on en manque. On a toujours des moyens de la traiter, mais ça coûte cher et on veut qu'une eau accessible à tous. Maintenant,
quand on entend le patron de Nestlé, ouais, qui veut en faire une... ça doit te rendre fou.
Ça me rend vraiment fou parce que... D'ailleurs, je le dis à tous, n'achetez pas de l'eau en bouteille.
En fait,
vous achetez juste du plastique. L'eau du robinet est totalement bonne, elle est super propre, elle est beaucoup plus contrôlée que toutes les eaux qu'on vous vend à des prix exorbitants. Ça n'a aucun intérêt. Vous achetez juste le plastique et vous participez à l'enrichissement de certains qui accaparent des sources qui normalement sont disponibles à tous. C'est un bien commun. Et donc du coup, il faut vraiment essayer de lutter contre cette production-là.
Quand tu vois des gosses, parce que des fois tu vas voir des enfants et tu expliques un peu ce cycle de l'eau. Enfin, moi, ouais. c'est un truc de ouf. Mais du coup, tu leur dis quoi aux enfants quand tu leur parles d'eau, de ce cycle-là, j'ai l'impression que moi, j'ai 36 berges. C'est un truc que j'entendais déjà quand j'étais enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important de leur expliquer ce cycle-là? Est-ce qu'ils comprennent, en fait, l'eau, c'est quoi, en fait?
Mais je pense qu'il y a une distanciation par rapport à l'eau, déjà dans des générations plus jeunes que nous, dans le fait où ils profitent rarement de l'eau en tant qu'élément de loisir, de récréation, ou même de découverte, d'émerveillement, quoi. On n'a plus tellement de l'eau en ville qui est jolie, avec un écosystème autour, où on peut se baigner. Et c'est des choses qui, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient totalement accessibles. Même dans des villes comme Bruxelles ou comme Paris, on peut se baigner dans la Seine. Et dans la Seine à Bruxelles aussi. C'est pas la même écriture, mais c'est aussi la Seine. Mais on se baignait dedans et on en profitait. Et on pouvait faire du kayak, naviguer. Et donc, tous ces loisirs sont un peu maintenant externes à nous, alors qu'ils sont super importants, je pense, dans la vie de quelqu'un.
Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, quand on achète de l'eau cristalline, Nestlé, Vittel, j'en passe des meilleurs. Chez nous, il y a Kézac. Voilà, je crois que j'ai tout cité. Donc, comme ça, je suis peinard au niveau du CSA. Mais qui achète cette eau en bouteille, mais qui n'aime pas l'eau du robinet parce qu'elle est traitée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre, en fait, pour les inciter à boire de l'eau du robinet? Est-ce qu'il existe, en fait, des bons systèmes, sans citer de marque?
Non, oui. Mais je comprends les différences de goût. Évidemment, il y a différents goûts de l'eau. Donc, tout ça est subjectif. Ce que je veux dire, c'est ne croyez pas qu'il y ait une question de qualité dedans, par contre. Les eaux ont des goûts différents parce qu'elles traversent des couches différentes de sol. Donc, en fait, elles s'enrichissent en minéraux différents à travers le monde. Ça peut être au goût de chacun. J'aime préférer cette eau-là parce qu'elle goûte le fer. Je préfère cette eau-là parce qu'elle est plus calcaire. Mais au final, ne doutez pas de la qualité de l'eau qu'on vous sert. C'est un bien incroyablement précieux qu'on a dans nos contrées, qui est accessible, qui est si peu cher pour ce que c'est. Profitez-en et traitez-la avec respect parce que c'est une eau qui est potable. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous buvez peut-être 2 ou 3 litres d'eau par jour. Et vous utilisez la majorité, genre 150 à 180 litres par jour pour vos toilettes, vos éviers, vos douches. Tout ça est potable. Faites bien attention que la qualité est respectée à chaque fois. C'est juste essayer de faire attention à ce que ça représente, l'eau qui coule de votre robinet. C'est un cadeau vraiment très précieux que la société nous donne.
Ce serait imaginable un jour de penser que dans nos toilettes, ce ne soit plus de l'eau potable qui soit mise. Pour un hydrologue, ça doit te dépasser.
Non, ça ne me dépasse pas. Non, c'est déjà le cas dans certains foyers où certains foyers où justement il y a des systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc l'eau de pluie qui n'est pas potable parce qu'elle a touché encore une fois des surfaces avant de rentrer dans sa citerne. Et là, on peut clairement alimenter la machine à laver, les toilettes, avec cette eau de pluie-là. Et en fait, au lieu de la mettre directement dans l'égout et pour qu'elle soit traitée, on lui donne une valeur en l'utilisant. Et ensuite, on la rejette avec parcimonie, avec pré-traitement, dans la nature ou dans un système d'égouttage, si c'est accessible. Mais c'est pas du tout une utopie, ça peut se faire. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est égal vis-à-vis de ça. Il y en a qui ont des jardins, des plus grandes maisons. Quand on vit en appartement, c'est pas quelque chose qui est possible. Mais c'est des choses qu'on doit investiguer pour essayer de mettre ça en place dans nos sociétés plus fréquemment.
Comme quoi, tout est possible. Merci Dimitri.
Avec plaisir, Ben. À bientôt dans les Cévennes, alors.
Alors viens quand tu veux. Je connais quelques hydrologues qui seraient contents de te parler.
J'ai ravi de les rencontrer, en tout cas.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et voilà, je n'ai pas enlevé assez de souffle grâce au réducteur de bruit magique que nous avons ici à la radio. C'est la vie. L'eau, en tout cas, c'est la vie aussi. C'est la fin de cette matinale. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve évidemment mercredi. Merci Corto, que je surprends à chaque fois que je dis merci.
À ton service, Ben. Je commence à m'y faire, ça y est.
Tiens, et puisqu'on parle de Bruxelles, on se quitte avec Boulevard Désert. Bruxelles, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et voilà. Et certaines savent pourquoi je dis ça. Bonne journée à toutes et tous. Profitez-en bien. À mercredi. Ciao.
Je ne connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Toi, je resterai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâtrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.